rire ou des mots à la bouche. C'est avec Valérie Rapeau, ce dimanche, dans Microscopie, à 17h, sur Présence.
Présence.
Radio Présence, 15h. De passage à Lourdes.
Internet, le nouveau presbytère, c'est le titre de votre livre. Père Pierre Amar, bonjour.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Merci d'être là avec nous pour nous parler non seulement de ce thème, de ce numérique, de cet Internet dans lequel vous êtes à la manœuvre. On va le découvrir.
Avec d'autres.
Mais on va voir ça, c'est passionnant, votre façon d'évangéliser sur ce continent digital. Et puis par ailleurs, évidemment, nous avons envie de vous entendre sur votre vocation sacerdotale. Le prêtre aujourd'hui, comment vit-il ? Qu'est-ce qu'il attend aussi, sans doute, de ceux qui nous écoutent, des baptisés en général ? Internet, le nouveau presbytère, c'est osé comme titre. Ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer que Internet, c'est un lieu où il faut résolument aller.
C'est ça.
Avec tout ce que nous sommes, y compris la foi.
Oui, en fait, je pense qu'on a fait une erreur. On a cru pendant longtemps que Internet était un média, c'est-à-dire un instrument. Et je pense que l'erreur a été là. En fait, Internet, c'est un lieu, c'est un endroit. Celui qui a très bien compris ça, c'est Benoît XVI, vous savez, ce pape émérite aujourd'hui, dont on disait qu'il était un peu vieux jeu, un peu âgé, etc. Il a dit lui-même que Internet était même un continent et qu'il fallait faire comme Christophe Colomb en 1492, vous voyez, planter la croix. Alors non pas sur le Nouveau Monde, mais sur ce nouveau continent qu'était Internet. Donc voilà, si c'est un lieu, hein, si c'est un endroit, d'ailleurs on le dit même dans le langage commun, on dit « j'ai vu sur Internet » ou « je suis allé sur Internet ». Si on utilise ces verbes-là, c'est bien pour montrer que c'est un lieu, un endroit. Donc en allant sur ce lieu, sur ce continent, on peut y faire des rencontres et pourquoi pas y rencontrer des prêtres, des chrétiens, décomplexés ou assez à l'aise pour parler de leur foi. Donc voilà un petit peu c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet ouvrage « Internet, le nouveau presbytère ». Il y a même un sous-titre qui, paraît-il, fait rire beaucoup de gens. Et j'ai mis « Comment rassembler des brebis avec des souris ».
Ah oui, bien vu. Vous avez 43 ans, Père. Oui. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles.
C'est cela.
Et vous êtes prêtre en paroisse.
Oui, curé de paroisse, curé de terrain.
Curé de terrain. On va voir d'ailleurs quel est votre terrain. Parce que lorsqu'on parle d'un prêtre dans le diocèse de Versailles et constitué un peu loin, on a l'idée de Versailles uniquement.
Voilà.
Et donc d'un certain milieu social.
Oui, c'est vrai.
Alors que vous avez été envoyé auprès de gens qui sont tout autres que ces clichés-là.
C'est-à-dire que le diocèse de Versailles, ça n'est pas que la ville de Versailles. Je suis né à Versailles, hein, je sais ce que je dois à cette ville et au tissu familial, paroissial qui est sur place. Mais le diocèse de Versailles, c'est aussi Trappes, c'est aussi Mantes-la-Jolie, c'est aussi Sartrouville, donc d'autres réalités à la fois urbaines et puis sociales.
Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission, mais revenons à ce livre, au sujet de ce livre, Internet, le nouveau presbytère, paru chez Arthège. Vous êtes tous les jours sur Internet, Père ? Est-ce que c'est bien raisonnable pour un prêtre ?
Non, c'est pas du tout raisonnable, c'est même chronophage. Alors, je suis arrivé, mais c'est une conversion de chaque jour, à me donner des petites règles, à la fois personnelles, de fonctionnement. J'accepte aussi une relecture de mes pratiques, de mes confrères prêtres. Cette aventure sur Internet, elle se vit pas seule, elle se vit avec d'autres prêtres, des amis au début, puis maintenant toute une équipe, on est 6, et on a créé ce site qui s'appelle Padre Blog, où on est 6 prêtres, justement, qui essayons de donner une parole réactive, libre, franche sur l'actualité. Et donc on s'aide les uns les autres. Vous savez, la vie fraternelle, et ceux qui vivent en presbytère avec une équipe de prêtres le savent, la vie fraternelle, ça régule, puis ça stimule. Donc le fait d'être une petite équipe de prêtres, soudés, hein, qui se regardent comme des frères, et puis envoyés pour annoncer l'évangile, on s'accompagne, on se donne des petites règles, alors je peux vous en donner même si vous voulez, enfin il ne s'agit pas de se confesser en direct à la radio, hein, mais vous voyez par exemple, le soir je fais sonner mon téléphone, c'est idiot, mais j'en suis arrivé là, et à un certain moment où ça sonne, ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher, tout simplement. Et puis je me suis fixé une autre règle aussi qui m'aide beaucoup, je n'ouvre pas ma messagerie, les réseaux sociaux avant d'avoir célébré la messe. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je vais prier, je vais dire la messe pour mes paroissiens. Et seulement après, c'est-à-dire vers 10h en fait, j'ouvre Internet. L'ordre est bon, il me semble. Mais vous voyez, j'ai mis des années, hein, à arriver à à cette pratique-là. Puis ensuite, je crois que ce que je vis, moi, et ce que nous vivons ensemble, les prêtres du Padre Blog, peut-être que tous les prêtres ne sont pas amenés à le vivre. Nous, c'est à la fois une appétence, c'est-à-dire un appétit, une conviction personnelle, et puis aussi peut-être une petite compétence au fil des temps. Tout le monde ne l'a pas, il y a des prêtres qui font autre chose, et même des évêques. Regardez Mgr Giraud, l'évêque de Sens-Auxerre. Lui, tous les jours, sur Twitter, il fait une tweetomélie, c'est-à-dire qu'en 140 caractères, il met une petite phrase de l'évangile, un petit commentaire. Il fait ça tous les jours, il fait ça toujours depuis des années. Et bien ça suffit, voilà, c'est son mode de présence à lui. Nous, à Padre Blog, on s'est plutôt senti appelé à donner une parole sur l'actualité, une réaction de l'Église sur l'actualité. Et là, tous les styles sont possibles, toutes les façons d'agir sont possibles. Je ne crois pas détenir à moi tout seul la recette qui va changer tout. Mais voilà, nous, c'est en tout cas moi et les prêtres du Padre Blog, c'est une façon d'évangéliser.
Ce que vous nous dites là, au fond, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce que vous avez qualifié de lieu.
Ouais. Alors n'ayez pas peur, vous savez, nous, on est la génération Jean-Paul II, hein, c'est le pape qui a bercé notre jeunesse. Donc là, vous avez ciblé juste. Le n'ayez pas peur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous a appelés, paraît-il, les prêtres décomplexés. Alors, j'aime pas trop l'expression parce que ça voudrait dire que ceux d'avant étaient complexés, ce dont je doute. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas peur de dire ben oui, je suis prêtre, oui, je suis chrétien, oui, je suis un disciple du Christ. Et alors, c'est quoi le problème ? Il y a peut-être ça, effectivement, qui se dit de façon plus active, peut-être proactive, on le dit tous les jours et sur Internet.
Vous connaissez les critiques hein, qu'on adresse au continent digital, numérique. On dit, au fond, à quoi bon passer un temps fou à être en relation avec beaucoup de personnes un peu partout, alors qu'on ne sait pas être en relation avec la proximité. Est-ce qu'il n'y a pas également des problèmes de rencontres qui peuvent être des écueils, des douleurs sur Internet ? Vous connaissez toutes ces critiques.
Oui, mais attention, parce que virtuel ne veut pas dire irréel. Derrière les écrans, il y a des gens. Il y a des gens en chair et en os. Derrière chaque écran d'ordinateur, derrière chaque écran de smartphone, il y a une personne. Donc le contact, la rencontre peut se vivre. Alors attention, il s'agit après de changer, que les contacts et les rencontres faites sur Internet puissent se vivre après en réel. Je suis convaincu que l'incarnation, le charnel hein, est vital. Nous les chrétiens, on est les disciples de la rencontre. Mais je ne crois pas je crois qu'on aurait tort de se priver d'une telle tribune. Vous savez, moi le dimanche soir, quand j'ai célébré la dernière messe du dimanche, c'est-à-dire une des cinq messes du week-end, j'ai parlé grosso modo à 600, 650 personnes. Lorsque je fais un tweet, je parle à des milliers de personnes. Et je me dis, mais j'aurais tort de me priver d'une telle tribune, tout simplement. Maintenant, encore une fois, voilà, j'entends votre question, qui est la question qui est faite par beaucoup de gens, hein, de dire, la vraie rencontre, elle se vit en vrai. Si Dieu a envoyé son fils, c'est pas pour rien. Il n'a pas envoyé une lettre aux hommes, il n'a pas envoyé un mail pour sauver l'humanité. Il a envoyé son fils. Donc je crois qu'Internet peut préparer la rencontre, susciter la rencontre, et après il faut la vivre. Et la rencontre avec le Christ, elle se vit en paroisse, dans les sacrements, elle se vit charnellement. Hein, c'est quand le Christ est au creux de mes mains dans l'Eucharistie et la communion qu'il est là réellement. Sur Internet, je peux en entendre parler, mais je ne peux pas le rencontrer.
Une autre difficulté d'Internet, c'est que certains arrivent masqués, avec des pseudos, on se lâche. Ouais. Il y a des espèces de logorées aussi.
Une violence, parfois.
De la violence, oui. Et vous arrivez comme une brebis.
Avec mon vrai nom, parce que moi, je n'ai pas de pseudo. Pierre Amar, c'est mon vrai nom, et je suis sur Internet, je m'appelle Pierre Amar. Hein, ouais.
Avec, toute votre bienveillance, une forme de naïveté. Est-ce que, parfois, ça ne nous broie pas, tout ça ?
En fait, il y a les deux, Mathias. Il y a cette violence de gens qui se cachent derrière un pseudo et qui se livrent et qui agressent et qui ne se permettraient pas, d'ailleurs, des telles expressions si la personne était en vrai, réellement devant elle. Mais il y a aussi l'inverse, des gens qui justement, dans le confort de leur salon ou cachés derrière un écran, se livrent, nous font des confidences, parfois très, très intimes. Est-ce qu'il n'y aurait pas, parfois, comme moi je l'ai constaté, une vertu confessionnalisante parfois de l'Internet ? J'ai reçu des mails ou des messages par les réseaux sociaux de personnes que je ne connais pas, je ne sais même pas où elles habitent, de personnes qui ne dévoilent pas leur vraie identité et qui me confient une détresse, une intention de prière, qui me touche moi profondément. Et je me dis, mais cette personne-là, c'est justement parce qu'elle est loin physiquement qu'elle me dit des choses aussi rapides, aussi brutales. Peut-être pour que je la porte dans ma prière, peut-être parce qu'elle sait que parce que je suis loin, je ne la jugerai pas. Mais en fait, si elle était devant moi, je ne la jugerais pas non plus. Mais peu importe. J'ai constaté que Internet permettait en fait le meilleur et le pire. Voilà, c'est juste, vous avez raison. Il y a des gens qui sont très violents, mais il y a aussi des gens qui se livrent énormément. Et on aurait tort de ne pas leur donner leur temps d'écoute ou une opportunité de répondre à leurs questionnements. Alors il m'arrive souvent, je ne vous cache pas, de dire « allez voir votre curé, il y a sûrement un curé près de chez vous ». Aller voir tel sanctuaire.
Parce qu'on ne peut pas délivrer le sacrement du pardon par exemple, par Internet.
On peut bénir par Internet ou par téléphone, mais on ne peut pas se confesser par Internet. D'ailleurs, la question s'était posée que lorsque le téléphone avait été inventé, on a dit non, on ne peut pas se confesser par téléphone. Il faut une vraie rencontre. La rencontre, dans l'Église, elle est toujours sacramentelle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un sacrement qui se donne, pour que Dieu se donne, il faut que l'eau mouille au baptême, il faut qu'on ait le corps du Christ au chrono de main, il faut que le Saint-Crème touche le front, il faut que. Il y a toujours un endroit, un lieu, un fait, un geste, toujours. Maintenant, je crois, alors j'ai essayé de l'expliquer dans cet ouvrage, alors je prends beaucoup de pages pour le dire, j'espère le dire rapidement là ici, je crois qu'Internet participe d'une certaine façon à la rumeur. Vous savez, il y a un mot sur Internet qui est répété en permanence, c'est le buzz. Internet, ça fait du buzz. Et je crois que le buzz d'Internet fait bon ménage avec quelque chose qui existe dans l'évangile, qui s'appelle la rumeur évangélique. Vous savez, quand Jésus dit à ses apôtres, dis donc, qu'est-ce qu'on dit de moi? C'est dans l'évangile de Saint-Luc. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors les apôtres disent, certains disent que t'es un prophète, d'autres que t'es Jean-Baptiste qui est revenu, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il se positionne par rapport au buzz de l'époque. Il dit, mais c'est quoi le qu'en dira-t-on à mon sujet? Jésus sait très bien que le plus vieux média du monde, c'est le bouche à oreille. Et je crois qu'Internet, son ressort secret, son moteur, c'est le buzz, c'est le bouche à oreille. D'ailleurs, tout le monde le dit. J'ai vu sur Internet, j'ai entendu sur Internet, t'as vu sur Internet. Il y a du buzz. Et pourquoi pas, aujourd'hui, faire du buzz pour Jésus-Christ? En tout cas, moi, c'est mon intention.
Cela s'intitule « Internet, le nouveau presbytère ». Et le sous-titre de votre ouvrage paru aux éditions Arthège, c'est « Comment rassembler des brebis avec des souris ».
C'est ça.
Allusion, bien sûr, aux souris dont on se sert.
Et aux brebis de l'Évangile.
Oui, aux brebis de l'Évangile et les souris dont on se sert pour les ordinateurs. A tout de suite, nous marquons cette pause et à tout de suite, Père Pierre Amar du diocèse de Versailles qui nous rend visite aujourd'hui.
Présence.
Immersion. Immersion. Dans Immersion, je vous propose une plongée au cœur de la vie chrétienne. 27 minutes de reportage, d'enquête et de témoignages pour découvrir et comprendre la richesse et la diversité de la vie chrétienne de notre région.
Immersion. Pour plonger au cœur de l'expérience spirituelle.
Tous les vendredis à 11h.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Merci d'être notre invité, Père Pierre Amar. Vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Versailles. On a parlé assez longuement avec vous de l'Internet, avant la pause. Internet, le nouveau presbytère, c'est le titre de votre livre paru chez Arthège. Et on a compris que vous, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et les blogs, c'est votre univers. Ce sont des lieux où vous aimez manœuvrer, annoncer, parler, dialoguer.
Exactement.
Tout en connaissant les écueils, les difficultés et parfois même les pièges de cet univers. Vous restez quand même un prêtre sur le terrain ?
Oui.
Rassurez-nous.
Un curé de paroisse qui fait ce que font des milliers de confrères, c'est-à-dire célébrer, annoncer, témoigner, rencontrer. Donc je baptise, j'enterre, je célèbre et c'est le cœur de mon métier. C'est le cœur de mon métier. C'est-à-dire que, oui, lorsqu'on fait un tweet ou qu'on fait un article sur Padre Blog avec mes confrères, là, on est lu. Alors, on a les compteurs, vous savez, il y a des chiffres. Parfois,
on peut être grisé par ça.
Oui, mais en fait, le cœur de mon métier, c'est la mission que m'a confiée mon évêque. Alors, il sait ce que je fais sur Padre Blog, mais le cœur de mon métier, c'est d'être prêtre de terrain, prêtre de paroisse, curé de paroisse, comme Saint Jean-Marie Vianney, comme tant d'autres avant moi. Alors, je ne suis pas aussi saint que Saint Jean-Marie Vianney, hélas, non, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais le cœur de mon métier de prêtre, c'est ça. C'est témoigner, annoncer, vivre au milieu des gens que l'évêque m'a confiés.
Est-ce que vous avez vu parfois dans des célébrations des personnes venir parce que d'une façon ou d'une autre, elles avaient été rejointes par vous, votre action et celle d'autres prêtres sur l'Internet ?
Alors il m'est arrivé d'abord, à force de messages sur les réseaux sociaux ou par messagerie ou par mail avec des gens, de leur dire « écoutez, ce que vous me dites est tellement intime, tellement lourd, tellement difficile que je ne me résous pas à converser de cela avec vous par écran interposé. Venez me voir.
venez me voir. Ou alors allez voir votre curé. Mais là, quand les gens étaient dans mon coin, en région parisienne, grosso modo, je leur dis, mais venez, qu'on puisse se voir. Donc ça m'est arrivé, effectivement, certainement pas assez, hein, mais ça m'est arrivé. D'abord de dire aux gens, venez. Et ces gens sont venus. Donc il y a eu une première joie, hein, de pouvoir, comme on le disait, rassembler en tout cas m'adresser à des brebis via ma souris d'ordinateur. Et puis ensuite, au cours de célébrations ou de rencontres dans la rue, de gens me disant, tiens, ben, on vous a vu, ou on vous a entendu à telle radio, ou on vous a vu. Parce que oui, la notoriété numérique, au bout d'un moment, elle devient une autorité médiatique. Ça aussi, c'est à accompagner, c'est pas simple. Et du coup, les gens me disent, ah, on vous a vu sur telle radio, sur telle télé. À vrai dire, c'est surtout mon confrère, le père Grosjean, hein, du Padre Blog, qui est encore plus sollicité. Mais on voit bien que la figure du prêtre, un peu connue numériquement ou médiatiquement, elle l'interpelle, elle interroge et elle suscite des conversations, ouais, au quotidien, bien sûr. Ouais.
Vous n'avez pas peur des médias?
Non, j'ai pas peur des médias, mais parce que je sais qu'ils ont pas peur de nous non plus, nous l'Église ou nous les chrétiens. Par contre, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de mon orgueil, comme tous les hommes, hein, qui sont sur cette terre. Je rappelle que le péché originel, c'est un péché d'orgueil. Hein. On a voulu se faire plus grand que nous n'étions. Et puis j'ai peur de pas être authentique. C'est pas simple de dire. En des mots immédiatement recevables, médias compatibles, comme on dit, la foi de l'Église. C'est pas simple, vous trouvez les bons mots tout en restant fidèle. Voilà, c'est sûr.
Mais votre choix, en le sens, c'est de refuser la chaise vide, c'est d'y aller quand même.
Oui, je pense que.
Avec toutes les précautions dont vous parlez.
Ouais, il faut y aller parce que le monde est avide d'entendre des paroles de vie, quoi, les paroles du Christ. Alors, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour Jésus, hein, c'est le meilleur de tous les boss. Hein. Donc, je suis convaincu qu'il faut y aller parce que ce trésor qu'on a, il doit être partagé. Enfin, c'est juste impossible de le garder entre nous. L'Église n'est pas un club. Vous voyez, c'est pas un club de gens qui se fréquentent. L'Église, elle a envie de témoigner. Et si saint Paul était là aujourd'hui, il aurait un compte Twitter, une page Facebook, un compte Instagram, un blog. Il serait sur tous les plateaux télé. Évidemment, évidemment.
Revenons, si vous le voulez bien, dans votre paroisse. 20 clochers, 42 000 habitants, m'avez-vous dit.
Ouais.
Paroisse à la fois rurale, urbaine. Quelle est la réalité que vous vivez dans votre quotidien de prêtre? Quelle est cette population vers laquelle vous avez été envoyé dans le diocèse de Versailles?
Il y a d'abord quelque chose de très beau et puis qui arrive à tous les curés du monde entier, et pas ceux de France, du monde entier. C'est d'abord qu'on ne choisit pas le peuple vers lequel on est envoyé. C'est un grand mystère. On est envoyé par notre évêque. On pourrait dire non, mais il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de dire non. Donc on dit oui. Et en fait, c'est très curieux, il y a une drôle d'alchimie. On se prend à aimer des gens qu'on n'a pas choisis. C'est très bizarre. Vous voyez, dans le mariage, dans la vie amoureuse, on choisit celui qu'on aime. Eh bien, moi, on me le choisit pour moi. Donc, c'est très étonnant. Et tout ça n'est possible que si c'est vécu avec de la foi et dans le cœur de Dieu. Donc, c'est une drôle d'alchimie. On est envoyé vers des gens qui ne nous ont pas choisis non plus. Ça aussi, c'est curieux parce que. Ben, on arrive avec notre humanité, nos charismes et puis nos limites. Hein. Ça y est, ça fait 18 mois hein, que je suis dans cette paroisse. Mes paroissiens ont parfaitement vu, mais en moins de 18 mois, mes défauts et mes qualités. Ils ont parfaitement vu mes défauts, ça, il n'y a aucun problème. Donc il y a ce non-choix qui fait que, ben, vécu dans la foi, puis avec le Saint-Esprit, ça peut donner des merveilles. Puis la deuxième... Alors peut-être là, je m'adresse plus s'il y a des confrères prêtres qui m'écoutent, peut-être la difficulté de devoir desservir des lieux où non seulement il n'y a plus beaucoup de chrétiens, mais peut-être aussi plus beaucoup d'habitants. Donc il y a une vraie question derrière ça. Alors il ne m'appartient pas à moi de la résoudre, encore moins dans un studio de radio, mais il y a une vraie question derrière ça. Comment assumer aujourd'hui la présence de l'Église dans des lieux qui se désertifient? Vous voyez, dans les 20 clochers que sur lesquels je rayonne, hein, il y a 15 villages. Il y a des villages, il n'y a que 400 habitants. L'église est toute petite. Et quand j'ai dit la messe, il n'y a pas grand monde. Ou une population vieillissante. Derrière ça, il y a des vraies questions. Alors, je pense que nos évêques, hein, ils réfléchissent depuis des années. Que faire? Comment faire?
Père Amar, vous conviendrez que la figure du prêtre est un peu brouillée ces dernières années, en raison des faits divers, en raison aussi de personnages emblématiques, médiatiques. Bon, on pense aussi au Père Hamel,
ouais.
Qui marquera durablement
pas très loin de chez moi d'ailleurs, à 50 km. Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est...
On pense aussi aux faits divers qui ont pu entacher la réputation des prêtres en général. Comment vous vivez avec ça, vous ?
Allons-en directement au fait, parce que je vois ce que vous voulez évoquer. En 2016, on a eu deux figures de prêtres. Le père Prénat à Lyon, disons son nom, et puis derrière lui, ces prêtres qui ont été dramatiquement, scandaleusement des contre-exemples flagrants. Et vous voyez, même d'en parler, vous voyez, ça m'émeut encore aujourd'hui. J'ai du mal à trouver les mots tellement encore ça me blesse et ça me marque parce qu'il n'y a pas une seule journée où on n'est pas à rendre compte de ces crimes atroces où des gens nous interpellent. Et puis la deuxième figure, c'est le père Hamel, vous l'avez dit. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, et voire même aussi au-delà, au monde entier, faites votre choix. Regardez dans les apôtres, il y avait un traître, Judas, puis il y avait 11 hommes fidèles, fragiles. Les apôtres, on a bien vu, c'est pas une équipe de winners au début. C'est des pauvres gens avec leurs faiblesses, leurs limites. Mais ils sont tous morts martyrs. Et c'est pas parce qu'il y a eu un traître que tous les apôtres sont pourris. Donc j'ai envie de dire, oui, il y a eu des prêtres qui ont été des contre-témoignages, et comptez pas sur moi pour les défendre. Mais il y a une majorité de prêtres qui sont heureux d'être prêtres et dont on parle pas, et c'est dommage. En tout cas, on en parle moins. Évidemment, un arbre qui tombe fait plus de bruit que 100 arbres qui poussent. Ça, c'est un vieux proverbe africain, et c'est vrai.
Et donc vous avez du mal, vous, à vivre avec cette réalité contrastée. Comme vous disiez, il faut parfois rendre compte, et vous vous êtes peut-être même, à titre personnel, blessé par ça. Il y a des fois où peut-être n'avez-vous pas osé sortir de votre presbytère certains jours en disant aujourd'hui.
Oui et non.
Avec
en fait,
actu qui vient de tomber là.
Oui et non, parce que, alors évidemment, il y a eu l'actu des prêtres pédophiles. Vous savez, j'ai une expérience qui me marque beaucoup en ce moment, c'est que tous les matins, j'ai fait le choix de prendre mon petit déjeuner au bar qui est en face de l'église. C'est ma chapelle annexe, vous voyez. Tous les matins, le bar de l'église, il y a le curé qui vient. Je prends mon café, un croissant, et je parle. Et je parle avec qui ? Mais avec tout le monde. Et donc tous les matins, maintenant, ça fait partie de l'habitude paroissiale, et tous les gens savent, les habitants de Limay, là où je suis, savent que... D'ailleurs, même quelqu'un m'a dit, on va peut-être changer le nom du bar, on va l'appeler le bar du curé, parce que t'es là tous les matins, ils me disent. Et donc, il n'y a pas un seul matin, vous m'entendez, pas un seul matin où je n'ai pas eu à rendre compte de cette histoire de à la fois du célibat sacerdotal et des prêtres pédophiles. Tous les jours, on m'en a parlé, tous les jours. De façon pas toujours très fine, toujours douloureuse, parce que en fait, ça me touche, moi, ça me touche. D'abord, je pense aux victimes, puis ensuite, si vous voulez, ces prêtres, ça reste des frères pour moi. Et donc, je me dis, mais comment ont-ils pu faillir à ce point ? Donc, ça m'a touché. Et en même temps... Et tous ces hommes qui, parfois à 8h du matin, ont déjà pas pris seulement un café, je peux vous dire. Enfin bon, c'est une autre histoire. Ces hommes m'ont dit « Ah mais toi, Père Amar, c'est autre chose. Toi, nous, on t'aime bien. » Alors que c'est des gens, mais ils ne mettent pas les pieds à l'église. Et je me dis, c'est peut-être gagné. S'ils ont su faire la différence entre des prêtres scandaleusement, qui ont agressé et qui ont fait des choses abominables, et puis moi, leur curé, je me dis, c'est bon signe. Et puis, enfin, c'est la providence qui était là, et le père Hamel. Attendez, mais cette figure du père Hamel, là aussi, tout le monde m'en parle. Ce prêtre dont personne connaissait le nom, qui était le vieux curé rabougri, vous savez, vieux, fragile, avait 60 ans de sacerdoce. C'est énorme, 60 ans de sacerdoce, 60 ans de fidélité. Et qui est mort égorgé à la fin de la messe, c'est à la fois terrible et sublime. Je me dis, mais c'est incroyable. Moi, je suis allé à Saint-Étienne-du-Rouvray, j'y suis allé 3 jours avant Noël. Et donc j'ai vu l'endroit où on l'a égorgé, il était en chasuble, il sortait de la messe. C'est-à-dire qu'après avoir donné le sang du Christ aux gens qui étaient là, il a donné son sang lui-même. C'est juste incroyable pour un prêtre. Je vous dis, c'est à la fois terrible et sublime. Et je me dis, heureusement qu'on a eu le père Hamel, je ne veux pas que d'autres prêtres se fassent massacrer, qu'on m'entende bien, mais je me dis, il y a une belle figure sacerdotale, et j'ai sa photo maintenant dans mon portefeuille, le père Hamel, je ne le connaissais même pas. Et son témoignage de vie me guide, alors que c'était un prêtre d'une autre génération, peut-être d'un autre style. En tout cas, un bel exemple de fidélité. Et Dieu merci.
Vous êtes de passage à Lourdes pour vivre une retraite.
Oui, alors on va dire, mais ça, qu'est-ce qu'il fait à la radio ?
Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à la radio ? Peut-être qu'il a son portable qui n'est pas loin, une tablette.
Ouais. Alors,
vous coupez vraiment là, pendant quelques jours ?
Oui, on essaye et on y arrive. Ouais, y a la grâce de Lourdes, d'abord la grâce du lieu. Puis alors, en plus, il y a une grande grâce en ce moment, enfin, surtout que nos amis commerçants le prennent pas mal, mais en ce moment, tous les magasins sont fermés. On n'a aucune tentation. On a Lourdes rien que pour nous, il fait juste très froid. Mais il y a toujours cette grâce de Lourdes qui fait que la grotte nous attire comme un aimant. Et on est une centaine de prêtres là en ce moment à vivre quelque chose de très beau. On a une retraite qui est prêchée par Monseigneur Ravel, l'évêque aux armées. Il nous parle justement de toutes ces figures sacerdotales, d'aumôniers militaires qui ont donné leur sang et qui ont été héroïques à la Première Guerre mondiale. Et il nous raconte mais des histoires chaque jour incroyables, toutes sublimes les unes après les autres. Et du coup, après chaque instruction, on va se recueillir à la grotte. Il n'y a personne dans les rues, c'est le bonheur. C'est une grande grâce de pouvoir profiter de Lourdes pour nous tout seuls, en fait. Vous savez, quand on va à Lourdes, on y va toujours avec des groupes, alors le pèlerinage diocésain, le FRAT, le pèlerinage national, le Pélée du Rosaire, toujours plein de gens. Il faut accompagner les pèlerins. Ça nous fait du bien à nous aussi, évidemment, mais il faut accompagner les pèlerins. Du coup, c'est assez prenant. Là, on est seul, on est tranquille, on peut prier. Et une dame qui m'a fait un compliment ce matin à la messe, elle m'a dit « Ah, ça fait du bien de voir les prêtres prier ». Alors ça m'a étonné, j'ai dit bah oui les prêtres prient, alors peut-être qu'on le dit pas assez, peut-être qu'on le montre pas assez, mais on n'est pas des pharisiens, mais ouais, 5 jours de repos, de prière, ça fait du bien.
Merci en tout cas pour votre énergie, votre dynamisme, Père Pierre Amard. Je rappelle le titre de ce livre, Internet, le nouveau presbytère, et ce sous-titre savoureux, Comment rassembler des brebis avec des souris, paru chez Artege. On espère que ce livre sera bien vendu, qu'il va bien se diffuser, parce que vous y apportez des idées nouvelles tout de même. Notamment, vous nous l'avez dit, sur la rumeur, le buzz, comme on dit sur le net. Merci, bon vent à vous, Père.
Merci.
Bonne
merci
retraite à Lourdes. Au revoir.
Passage à Lourdes.
Présence. Retrouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com.
Thank you. Lord.